premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la culture littéraire, historique et géographique des présidents de la République. Les orateurs de la Révolution française puisaient à l'envi dans les classiques grecs et latins pour forger leurs discours. Les débats entre Athènes et Sparte, tout comme les discussions du Sénat de Rome, leur semblaient presque contemporains des événements qu'ils vivaient. Cette culture classique, forge de la rhétorique politique, perdura tout au long du XIXe siècle ainsi qu'une bonne partie du XXe siècle. Pour notre première émission consacrée à la culture littéraire et historique des présidents de la République, nous nous attarderons sur la figure de l'écrivain président, sur la formation rhétorique des élites françaises et sur son maintien à de cette formation jusqu'au milieu du XXe siècle. Avec nos trois invités, Judith Lioncan, elle est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, Claire Blandin, elle est professeure à l'Université Paris 13, et Patrick Garcia, il est professeur des universités à Cergy-Pontoise. Mais tout de suite, nous sommes lundi, et vous le savez, tous les lundis, nous commençons notre émission par un nouvel épisode de notre feuilleton « La fabrique de la guerre froide » préparé par Anaïs Quien et Françoise Camard.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé,
уважаемые гости.
27. съезд КПСС. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros du combat de Tejon.
Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
C S C E.
Antenne 2. 2 août 1976.
Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. L'une des trois conférences internationales, totalement indépendante de celle de Vienne sur les MBFR, réduction mutuelle équilibrée des forces en Europe, et de celle de Genève, les SALT, conférence sur le désarmement nucléaire États-Unis-Union soviétique. Participent donc à cette conférence États-Unis, Canada et 35 pays européens, un de plus que prévu à l'origine, la principauté de Monaco. Seule en Europe, l'Albanie boude la conférence, l'Albanie avec en filigrane l'opposition de la Chine. Incontestablement, on aborde aujourd'hui une étape décisive de la détente en Europe, conférence qui n'aurait pas été concevable auparavant sans la liquidation de la guerre froide.
C'est une conférence, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui a été à la base imaginée par les soviétiques et qui s'est retournée contre eux.
Nicolas Badalassi.
Le but des soviétiques, à partir des années 50, est d'obtenir des occidentaux une reconnaissance de la division de l'Europe en deux blocs et une reconnaissance de la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est. Surtout dans le cadre du conflit latent entre l'URSS et la Chine, les soviétiques ayant peur de combattre sur deux fronts à la fois, Mao étant très critique à l'égard justement de la politique de conciliation des soviétiques à l'égard de l'Ouest, et notamment de la non-utilisation par les soviétiques de l'arme nucléaire contre l'Occident. Les pays, notamment de la communauté européenne, réalisent que la proposition soviétique, qui est constamment réitérée depuis les années 50 et tout au long des années 60, de réunir une conférence au cours de laquelle on consacrerait le statu quo, qui a toujours été refusée jusque-là, cette proposition soviétique après 68, tout à coup, elle suscite un intérêt pour les pays d'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se dit qu'on pourrait en acceptait le principe visant à consacrer le statu quo, mais en échange, on pourrait intégrer dans l'ordre du jour de la conférence toute une série de normes sur la protection des droits de l'homme, sur les échanges culturels, sur la circulation des personnes entre l'Est et l'Ouest. Donc, la condition sine qua non des pays d'Europe de l'Ouest pour organiser cette conférence, c'est que Moscou accepte d'intégrer dans l'ordre du jour des idées qui vont à l'encontre du modèle soviétique, qui sont jugés comme bourgeois. Les droits de l'homme, c'est jugé comme bourgeois par l'Union soviétique. L'URSS de Brejnev dit oui. Donc pendant 2 ans, on négocie pour essayer d'aboutir à un compromis entre ces deux idées. Les principaux interlocuteurs de l'URSS dans cette affaire, ce sont les Européens de l'Ouest et pas les Américains, en tout cas jusqu'en 1974. Donc ce sont les Européens de l'Ouest qui vont réussir à faire accepter aux soviétiques toute une série de normes qui seront inscrites dans l'acte final, à savoir le respect des droits de l'homme, la circulation des personnes entre l'Est et l'Ouest, le principe des mariages binationaux entre une personne qui vient de l'Est, une autre qui vient de l'Ouest, le développement des échanges culturels entre les deux blocs, bref, toute une série de dispositions que les Soviétiques, après de longues négociations, finissent par accepter. Ils acceptent parce que pour eux, ce qui importe, c'est la division de l'Europe en deux et la reconnaissance du statu quo. Donc le principe clé qu'on trouve dans l'acte final d'Helsinki, c'est celui d'inviolabilité des frontières, que les Soviétiques perçoivent comme un synonyme d'intangibilité des frontières, ce qui n'est en réalité pas la même chose, puisque contrairement à ce que voulaient les Soviétiques, les Occidentaux vont ajouter dans l'acte final le principe de changement pacifique des frontières. Donc c'est un document qui est assez ambigu au final, mais grâce à ce principe de changement pacifique des frontières, les Occidentaux, contrairement à ce que l'opinion publique croit en 1975, à aucun moment ne reconnaissent le statu quo. Mais la propagande soviétique fait passer l'acte final pour une reconnaissance du statu quo, mais en fait c'est faux. Et pour ce qui est des droits de l'homme et de toutes les dispositions en matière d'échanges culturels, etc., eh bien, en Union soviétique, le KGB et les principaux dirigeants se disent qu'après tout, on accepte tout, mais on n'est pas obligé d'appliquer ensuite. Notamment tout ce qui concerne les échanges de personnes, la circulation des idées, la vente des journaux occidentaux en URSS. Donc on accepte, mais le KGB se chargera par la suite de ne pas appliquer toutes ces dispositions. Donc évidemment, entre 1975 et 1983, on revient en période de guerre froide intense. Donc les accords d'Helsinki seront assez peu appliqués au final. Mais passé 1983, puis avec l'arrivée de Gorbatchev, l'URSS va appliquer ces accords. Donc c'est un forum qui est fondamentale finalement, puisqu'elle permet le maintien du dialogue entre les deux blocs. Alors que jusqu'aux années 70, le dialogue était en général bilatéral, et pas tous les pays européens ne pouvaient y prendre part. Pour les Européens, c'est un réel succès, parce que ce sont eux, les Européens de l'Ouest, les pays de la communauté européenne, qui parviennent véritablement à imposer ces mesures libérales dans le texte de l'acte final signé par Brejnev. Alors à partir de 1974, sous la pression de l'opinion publique notamment, qui veut moraliser la politique américaine, justement les États-Unis entrent dans la danse, à l'époque de Gerald Ford, qui signera lui-même l'acte final, et ce qui fait qu'ils pourront se prévaloir, les Américains pourront se prévaloir par la suite d'avoir joué un rôle dans le processus d'Helsinki, qui, surtout à partir de la deuxième moitié des années 80, deviendra le cadre de la troisième et dernière détente. Et la fin de la guerre froide en 90 se fera véritablement dans le cadre de la CSCE.
Voilà pour ce nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, signé Anaïs Quien et Françoise Camin. Vous pouvez le télécharger séparément des autres émissions et en particulier de l'émission de ce jour pour garder avec vous l'ensemble de ce feuilleton sur La Fabrique de la Guerre Froide. Nous écoutons maintenant, juste au moment où va se déclencher la guerre froide, Édouard Herriot, homme politique lyonnais et national, fait un grand discours à Lyon en 1946.
Bientôt, il y aura 20 siècles que le proconsul Munatius Plancus créa, avec des familles chassées de Vienne, la colonie d'où Lyon est sorti. C'était un illustre parrain que ce personnage, gouverneur de la Gaule transalpine, sans grand préjugé, semble-t-il, tour à tour ami de César, de Pompée, de Brutus, d'Antoine et d'Octave, auquel il fit décerner par le Sénat le titre d'Auguste, il gouvernera non seulement la Gaule, mais la Syrie et l'Asie. Un historien ancien l'appelle un maniaque de la trahison, Morbo Proditor. Quand je cite son nom, je me rappelle cette ode qu'Horace lui dédie pour lui vanter les cascades sonores de Tibur, un bois sacré, des vergers traversés de ruisseaux, le paysage où Munatius avait sa villa de repos. C'est lui que le poète invite à oublier dans les douceurs du vin les fatigues de la guerre, avant de repartir sur les plaines immenses de la mer, Crasse, Engin, Citerabimus et Quor.
Voilà donc un extrait de ce discours prononcé en 1946, quelques années avant le deuxième millénaire de la ville de Lyon, par celui qui en était son édile depuis 1905, à savoir Édouard Herriot, qui avait fini, je crois, premier à l'agrégation de lettres, qui était professeur de rhétorique à Lyon depuis longtemps, qui a enseigné d'ailleurs la rhétorique à un autre grand homme politique de la Troisième République, à savoir Édouard Daladier. Et ce personnage d'Édouard Herriot, eh bien, nous importe puisqu'il participe justement de ce mythe ou de cette histoire, pourrait-on dire, des hommes politiques français dans leur rapport aux lettres, et en particulier aux lettres classiques. On l'a entendu ici dans ce discours, prononcer quelques mots en latin. Bonjour Judith Lioncamp.
Bonjour.
Ça vous rappelle peut-être, vous qui avez travaillé beaucoup sur la culture littéraire du 19e siècle, combien effectivement nos hommes politiques qui agissent dans les années 1930 à 1950 ont été forgés par une culture politique plus ancienne. Ils ont eu des maîtres qui eux-mêmes ont grandi entre la Restauration et le Second Empire, et qu'ils auront appris combien les lettres classiques étaient utiles à la politique, en l'occurrence.
Ils ont eu des maîtres qui ont assisté à la réforme du lycée au début du XXe siècle, c'est-à-dire le moment où on a abandonné l'enseignement de la rhétorique au profit des lettres françaises, mais en réalité, l'enseignement de la rhétorique est resté, par le latin notamment, au cœur de la transmission des élites bourgeoises. C'est-à-dire que c'est vraiment l'école de la... C'est vraiment le lycée de la bourgeoisie qui est là, qu'on entend dans les paroles d'Herriot et d'autres. Et cette idée quand même de la d'une culture littéraire qui permet à l'histoire nationale de rester dans sa plus grande cohésion. Parce que c'est ça la fonction quand même de l'histoire littéraire et de la culture littéraire telle qu'elle est transmise, c'est que toutes les époques de l'histoire nationale sont transportées grâce à la littérature.
Alors, elles sont transportées grâce à la littérature, mais parce qu'aussi on a de grands exemples, de grands hommes qui sont aussi des écrivains et qui, au XIXe siècle, vont tenter des carrières politiques. On peut évoquer Victor Hugo, mais on peut évoquer Guizot ou Thiers, ou encore, évidemment, Lamartine.
Oui, c'est-à-dire que la première moitié du XIXe siècle est marquée par la conviction que l'activité d'écriture, le rapport avec la littérature, c'est une forme de magistère qui permet de s'adresser au siècle. Et le passage d'un certain nombre d'hommes de lettres en politique marque les premières décennies du 19e siècle. Alors, faut pas non plus penser que ça n'a pas été, que ça faisait consensus. Le passage de Lamartine en politique
n'a pas été
une grande réussite, disons. Mais et d'ailleurs, dès le milieu des années 40, à gauche comme à droite, l'idée que les hommes de lettres sont de bons hommes politiques est une idée qui est très discutée. En 48, lorsque de nombreux écrivains, et pas seulement Lamartine, mais Dumas, même Balzac, tentent de s'engager en politique, en se présentant à la députation, en général, ils sont pas élus, et il y a plein de débats dans la presse qui expliquent que la dernière chose à faire, c'est d'élire un homme de lettres. En politique, le seul qui y arrive, à part Lamartine et Hugo, c'est Eugène Sue. Mais Eugène Sue, qui est élu député de la Montagne en 1850, a cette attitude qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il n'ouvre pas la parole à la Chambre. Il n'ouvre pas la bouche à la Chambre.
Ah oui ?
Il ne parle pas.
Et pourquoi ?
Et il est absolument incapable. C'est-à-dire que il est porté en 1850 par le vote parisien à la Chambre des députés du côté de la Montagne,
comme grand homme
de gauche.
Ouais, c'est ça.
Bon, comme représentant de la cause démocratique et sociale. Et du jour où il arrive à la Chambre, il ne parle pas. Il est absolument incapable de prendre la parole en public. Et d'ailleurs, il s'en explique en disant que lui-même, son activité, sa forme d'action, c'est dans l'écriture. Et donc, la conversion, quand même, de la littérature en action politique, qui est tellement incarné par quelqu'un comme Lamartine ou comme Hugo, évidemment, ne va absolument pas de soi. Et d'emblée, au XIXe siècle, c'est discuté.
Un exemple de cette littérature sur la politique par quelqu'un qui a voulu faire de la politique et qui était un écrivain, c'est extrait de l'histoire des Girondins, donc de Lamartine, avec une préface de Mona Ouzouf, dans une édition établie par Anne et Laurent Theis, parue il y a 2 ans, je crois maintenant, chez Bouquin. Avec Robespierre et Saint-Just, finit la grande période de la République. La seconde race des révolutionnaires commence. La République tombe de la tragédie dans l'intrigue, du spiritualisme dans l'ambition, transition du fanatisme dans la cupidité. Au moment où tout se rapetisse, arrêtons-nous pour contempler ce qui fut si grand. La Révolution n'avait duré que 5 ans. Ces 5 années sont 5 siècles pour la France. Jamais peut-être sur cette terre, à aucune époque, depuis l'incarnation de l'idée chrétienne, un pays ne produisit, en un si court espace de temps, une pareille éruption d'idées, d'hommes, de nature, de caractère, de génie, de talent, de catastrophes, de crimes et de vertus que pendant cette élaboration convulsive de l'avenir social et politique qu'on appelle du nom de la France. Ni le siècle de César et d'Octave à Rome, ni le siècle de Charlemagne dans les Gaules et dans la Germanie, ni le siècle de Périclès à Athènes, ni le siècle de Léon X en Italie, ni le siècle de Louis XIV en France, ni le siècle de Cromwell en Angleterre, on dirait que la Terre, en travail pour enfanter l'ordre progressif des sociétés, fait un effort de fécondité comparable à l'œuvre énergique de régénération que la Providence veut accomplir. Les hommes naissent comme des personnifications instantanées des choses qui doivent se penser, se dire ou se faire. Voltaire, le bon sens. Jean-Jacques Rousseau, l'idéal. Condorcet, le calcul. Mirabeau, la foudre. Vergniaud, l'élan. Danton, l'audace. Marat, la fureur. Madame Roland, l'enthousiasme. Charlotte Corday, la vengeance. Robespierre, l'utopie. Saint-Just, le fanatisme de la Révolution. Judith Yoncan, cet extrait de Lamartine parlant de la Révolution française, lui qui fut révolutionnaire de la Seconde République, c'est aussi comment on ancre dans l'écriture et dans l'histoire sa propre action politique.
Alors, l'histoire des Girondins a été un grand succès de librairie hein, en 1847. Et alors, on le trouve, ce qui est intéressant, en extrait dans quantité de manuels scolaires de la fin du 19e et du début du 20e. Donc, tous nos hommes politiques dont on va parler tout à l'heure sont complètement nourris de cette prose qui est une prose d'histoire littéraire telle qu'on l'enseigne ensuite au 19e siècle avec cette psychologisation des grands hommes donc qui incarnent chacun.
Catégories.
Voilà, des vertus particulières. Et voilà, donc ce Lamartine-là, qui par ailleurs décrit aussi de manière extrêmement touchante Louis XVI au Temple, en train de lire du Montesquieu et la décadence de l'Empire romain, tout ça, effectivement, passe par l'enseignement du français et de l'histoire dans la culture politique et la culture littéraire des hommes politiques.
Alors, cette culture littéraire des hommes politiques, elle n'est pas partagée que par les hommes politiques, en l'occurrence, à partir du moment où, effectivement, ils seront de plus en plus nombreux à se professionnaliser dans la politique sous le Second Empire et puis, évidemment, avec la Troisième République. Elle est partagée par toute une classe d'élite qui va ensuite participer soit aux affaires, soit soit à la banque, soit à l'enseignement, soit donc à la politique. Tout le monde partage à peu près, dans une certaine élite, ce type de culture littéraire et historique, Judith Yoncan.
C'est ce qui fait l'efficacité de la convocation de ces références lorsqu'un homme politique comme Herriot les mobilise en public. C'est-à-dire que
qu'il faut pouvoir, effectivement...
Chacun reconnaît quelque chose, alors on peut travailler ça en termes plus de sociologie, c'est-à-dire chacun reconnaît là le signe d'une appartenance, d'une distinction qui signe le passage par les grands lycées de la République. Donc chacun reconnaît un univers de référence qui est transmis et qui est le symbole d'une appartenance à une certaine bourgeoisie, la capacité à citer des auteurs latins, citer du latin en public, faire des périodes, faire des vers, etc. C'est intéressant par exemple parce que chez Mitterrand par exemple beaucoup plus tard, lorsqu'il parle de sa propre écriture par coquetterie, il dit oui je fais des vers blancs, mais je les corrige. Voilà. Donc cette espèce de manière de rappeler qu'il y a là un enseignement de la distinction qui est actif jusqu'au milieu de la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors on mobilise ces références aussi, alors qu'on parle du peuple, alors qu'effectivement c'est un enseignement très spécifique à une certaine classe des hommes et des femmes politiques. Enfin, les femmes politiques sont peu nombreuses à l'époque, en l'occurrence, mais des hommes politiques de l'époque. C'est une caractéristique donc d'une certaine classe qui, pour certains, viennent de familles qui sont pauvres et qui ont obtenu par les bourses, en particulier sur la Troisième République, la possibilité de monter dans les hiérarchies sociales, qui vont devenir professeurs, instituteurs. C'est la République des professeurs dont on parle généralement, Julie Liancan.
Oui, alors c'est la République des professeurs, c'est une création, on le sait, d'Albert Thibaudet, du critique littéraire Albert Thibaudet, qui, après la Première Guerre mondiale, fait une sorte de retour sur justement les mutations culturelles des hommes politiques de sa génération, et il explique que la République des avocats a laissé place à la République des professeurs dans le creuset de l'affaire Dreyfus. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce que tout le monde sait par ailleurs, ce sont les intellectuels qui ont pris le pouvoir. Et effectivement, Thibaudet regarde vers les hommes politiques du cartel des gauches, qui sont tous effectivement des professeurs, des agrégés de lettres. Ou des
parmi lesquels Herriot et
Blum. Et ceci, effectivement, continue jusqu'à Pompidou, qui lui-même est agrégé de lettres classiques, premier prix au concours général de version grecque. Donc, il y a cette transmission qui est là.
Qui est là, et alors il n'a pas connu l'affaire Dreyfus, il est mort avant, mais je voulais vous lire un extrait de Victor Hugo. Victor Hugo s'adressant à la Chambre au moment de 1871, donc il dit ceci: « De ces deux nations, l'une la victorieuse, l'Allemagne aura l'empire, la servitude, la joue soldatesque, l'abrutissement de la caserne, la discipline jusque dans les esprits, un parlement tempéré par l'incarcération des orateurs. Cette nation, la nation victorieuse, aura un empereur de fabrique militaire en même temps que de droit divin, l'ancien César byzantin doublé du César germain. Elle aura la consigne à l'état de dogme, le sabre fait sceptre, la parole muselée, la pensée garrottée, la conscience agenouillée, pas de tribune, pas de presse, les ténèbres. L'autre nation, la nation voisine, elle aura la lumière, elle aura la liberté, elle aura non le droit divin, mais le droit humain, elle aura la tribune libre, la presse libre, la parole libre, la conscience libre, l'âme haute. Elle aura et elle gardera l'initiative du progrès et la clientèle des races opprimées. Et pendant que la nation victorieuse, l'Allemagne, baissera le front sous son lourd casque de horde esclave, elle, la vaincue sublime, la France, elle aura sur la tête sa couronne de peuple souverain. Voici comment s'adressait donc au Parlement en 1871 Victor Hugo, donc au moment de la défaite et de la défaite devant la Prusse, en l'occurrence. C'est aussi effectivement une glorification, cette littérature, une glorification ou une personnification d'une figure qui est la France.
Du génie national. C'est-à-dire que l'histoire littéraire, quand même, sert à ça. Quand elle est constituée tout au long du XIXe siècle, elle sert à faire tenir ensemble ce qui ne tient pas ensemble en principe, c'est-à-dire l'Ancien Régime et la Révolution, la Monarchie et la République, et toute la constitution de l'histoire littéraire tient à ça, au point d'ailleurs que Barthes, dans ses critiques des années 1950, a pu écrire de manière très juste « La littérature, c'est la monarchie ». C'est-à-dire qu'il y a une transmission d'une histoire de la France à travers les siècles que la littérature prend en charge dans une sorte de synthèse de tout ce qui peut éventuellement ne pas tenir ensemble pour fabriquer cette France vaincue et sublime là que l'on vient d'entendre.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire consacrée à la culture littéraire des présidents de la République avec Judith Liancan que nous venons d'entendre, avec Claire Blandin. Bonjour Claire Blandin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu à Chambéry qui vous accueille, et avec Patrick Garcia. Bonjour Patrick Garcia.
Bonjour.
Vous êtes ici à Paris. Alors si on avance dans le XXe siècle avec vous, par exemple Claire Blandin, qui avait travaillé en particulier sur le Figaro et le Figaro littéraire, cette culture dont on parlait avec Judith Liancan à l'instant, cette culture littéraire des hommes politiques, mais également partagée par les hommes de lettres et par bien d'autres figure de l'élite, pourrait-on dire, de la Troisième République. Vous la voyez un peu partout, partagée par chacun, cette culture ?
Oui, alors déjà le fait d'interroger la question que c'est une culture des élites, c'est le questionnement qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que cette culture, pour eux, c'est la culture, ouais. Avec un grand C, si je puis dire. Hein. Jean-Pierre Chaline a travaillé là-dessus. Et en fait, c'est effectivement une culture commune qui donne un sentiment de supériorité à toute une partie de la population. C'est cette fréquentation des muses hein, qu'on vient d'évoquer qui donne ce sentiment de supériorité sur le reste de la population. Le reste étant à la fois la masse inculte et aussi certains milieux aisés qui ont des formes d'instruction, mais des instructions différentes qu'on va appeler vulgairement les épiciers en fait. Hein. Et donc c'est effectivement cette culture littéraire, cette culture livresque qui donne ce sentiment de supériorité intellectuelle et esthétique qu'on retrouve depuis le 19e jusqu'au 20e siècle effectivement.
Mais ce que l'on voit, c'est qu'on se dit que cette culture, si elle n'est pas partagée par un très grand nombre de personnes, doit impressionner tout de même lorsque l'on fait les préaux d'école sous la Troisième République, et lorsque l'on va parler en citation latine, y compris devant une population qui ne comprend pas ou qui comprend peu le latin, c'est aussi une manière de se distinguer, bien entendu, Claire Blindin, mais aussi de partager avec une partie de la population plus large que les simples élites politiques, de partager des références communes.
Oui, tout à fait. C'est une définition de l'élite par la culture qui permet d'asseoir un magistère qui est un magistère moral. C'est exactement le magistère qu'on vient d'évoquer, qui est celui des intellectuels, mais qui va donc de Zola à Sartre, en fait, hein, pour asseoir ce magistère. C'est une culture qui est fondée sur un enseignement qui est reçu dans les établissements secondaires, qui sont encore réservés à une forme d'élite. Et c'est une culture qui, on vient de le dire, aborde un petit peu les acquis historiques ou scientifiques, mais avant tout, c'est une culture des humanités classiques. Et c'est vrai que la classe politique du XXe siècle fonde complètement à la fois sa supériorité, sa connivence, et puis aussi son style et sa relation, en fait, à la politique et à la culture politique sur cette culture d'humanité de départ.
Judith Lioncan, la rhétorique compte beaucoup dans cette culture des hommes politiques, la façon dont on sait prononcer, on peut prononcer un discours, est-ce que c'est important ?
Elle est restée très présente, enfin disons au cœur de l'enseignement jusque donc à la réforme du lycée en 1902, au moment où justement on a considéré qu'il fallait quand même mettre à égalité ce qu'on appelait la culture moderne et la culture classique. Donc à ce moment-là, les lettres françaises ont pris le devant, mais ce que je disais, c'est que c'est resté quand même présent par l'enseignement du latin et par le fait que toute une série d'exercices, parce que c'est ça qui compte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves, ce sont des exercices d'imitation. Donc le bon élève, c'est celui qui est capable de restituer, de faire des à la manière d'eux, de faire des vers,
des vers d'Horace
de faire,
à la manière
d'eux, de faire des discours, de faire des récits. Donc il y a toute une pédagogie qui passe en grande partie par l'imitation. Même si déjà, en fait, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de pédagogues qui commencent à dire que ce serait quand même pas mal de favoriser davantage l'invention,
la créativité
des élèves. Mais il y a quand même cette idée que voilà, ce sont des exercices d'imitation et ce que nos hommes politiques font en citant des vers latins ou en faisant des discours avec des périodes oratoires, comme on les a entendus tout à l'heure, c'est quand même de montrer leur capacité à reproduire ces modèles qu'on trouve dans les manuels que font faire les exercices que font faire les professeurs. Donc c'est quand même la République des bons élèves aussi.
Patrick Garcia.
Oui, République des bons élèves. Je pensais en écoutant Judith à ce que François Mitterrand rapporte de sa jeunesse.
Rappelons qu'il est né en 1916 et donc qu'il fait ses études dans les années 20 et 30.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il se met en scène, en tout cas, comme en récitant les discours de la Convention. Donc, on est dans l'imitation, on est dans l'imprégnation. Pour lui, effectivement, c'est là que se noue un rapport à la France et se noue aussi un rapport à la politique. Dans cette imprégnation du texte des révolutionnaires.
Des grands révolutionnaires.
De la même façon qu'on va trouver un De Gaulle rimaillant, hein, le premier De Gaulle écrivant des poèmes, un poème assez convenu hein, sur le sacrifice, un poème de proto-saint-cyrien ou de futur saint-cyrien, mais en tout cas, on est bien là dans la diffusion hein, d'un modèle, un creuset, une référence.
Une référence donc liée à la littérature, aux grands exemples en l'occurrence. Claire Blandin, vous les avez trouvés ailleurs que dans la politique, vous qui travaillez sur le Figaro littéraire et les écrivains donc des années d'entre-deux guerres en particulier. Vous les avez trouvés ailleurs, ces références ?
Oui, bien sûr, c'est des références communes hein, aux écrivains, aux scientifiques, etc. Mais ça montre effectivement que nos hommes politiques, ils vont valoriser cette formation en politique et dans d'autres secteurs. La carrière de Georges Pompidou est évidemment emblématique de cela. C'est-à-dire qu'on a la formation qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à la fois le fils de professeur, issu de la méritocratie, qui profite de ses capacités intellectuelles, de son hypermnésie en particulier, pour faire une scolarité extrêmement brillante, intégrer l'ENS, vous l'avez dit, être premier à l'agrégation de lettres, et puis qui va... utiliser ses compétences à la fois donc dans la carrière politique et puis chez Rothschild, où son intelligence supérieure, ses capacités d'adaptation, mais aussi sa profondeur, sa justesse d'analyse vont être appréciées. Donc en fait, ces compétences, ce sont les compétences communes à l'ensemble d'une classe bourgeoise et d'une classe d'élite.
Oui, Judith Lioncan, on entend souvent nos élites nous dire aujourd'hui qu'il serait bon, pourquoi pas, que si on a fait des sciences humaines, de la littérature, si on a fait de l'histoire, on puisse intégrer les grands boards des grandes entreprises internationales, que à Oxford et à Cambridge, on ne se gêne pas pour embaucher un agrégé de grammaire latine dans une grande banque, par exemple. Et ça ne se fait pas, mais ça se faisait, puisqu'effectivement, ce cas de Pompidou est un cas qui n'est peut-être pas multiple, mais il y a sûrement d'autres personnes que lui qui ont pu intégrer des grandes institutions parce qu'ils avaient une culture, justement, de cette élite littéraire.
Disons que Pompidou était très rassurant pour tous ceux qui... disons, soutenait la position sur laquelle l'apprentissage du latin mène à tout. Voilà. Donc, on peut répondre comme ça. Mais c'est surtout cette idée, je crois aussi, qui est que la littérature, la maîtrise de la culture littéraire est une sorte de vertu nationale, de garantie contre le mal.
Contre la médiocrité.
C'est très intéressant. Quand De Gaulle a publié ses mémoires en 59, Barthes a écrit un article qui s'appelle De Gaulle, les Français et la littérature. Alors, je vais en citer une phrase parce que je pense qu'elle est tout à fait, le diagnostic de Barthes est très intéressant. Je cite, dans l'admiration à peu près unanime de la critique à l'égard du général écrivain, il y a un sentiment de sécurité. L'assurance qu'en somme, aucun mal, aucune lésion ne peut venir d'un homme qui se soucie d'écrire bien le français. Et là, je crois qu'il y a, quand même cette conviction que le rapport à la langue et à la littérature est une protection, une garantie de vertu politique.
Alors, il faut rappeler aussi que ces hommes politiques ont des vies assez longues et que, effectivement, le général naît, on en parlera demain, donc en visitant sa bibliothèque à Colombey-les-Deux-Églises, naît à la fin du 19e siècle, va avoir une carrière assez longue jusqu'en 1969, que François Mitterrand, né en 1916, aura une carrière lui aussi assez longue qu'il fera poursuivre jusqu'à la fin du 20e siècle, que Georges Pompidou, bien que malade, aura également une carrière assez longue et qu'au bout du compte, donc, ces personnages-là vont teinter d'une certaine façon, Patrick Garcia, la vie politique de la première moitié et même d'une large, un troisième quart du 20e siècle parce qu'ils seront présents et qu'ils auront été forgés dans cette culture classique dont on parlait depuis le début de l'émission.
Oui, tout à fait. Au sens où il transporte dans le XXe siècle, dans la fin du XXe siècle, la culture du XIXe. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce que disait Judith à propos de l'histoire littéraire. On pense rarement, mais c'est exactement le doublon de l'histoire de France. C'est la composition d'un récit avec des légitimités successives. On a les deux qui fonctionnent et on passe de l'un à l'autre. Et donc, effectivement, il y a bien cette présence du 19e siècle dans le 20e siècle, et c'est-à-dire la présence d'un certain type de rapport à la France. Et je crois que Mitterrand, comme De Gaulle, ont une vision d'une France innocente, évidemment, une France toujours déjà là, un rapport charnel à la France. Tous les deux se mettent en scène et mettent en scène cet amour de la France. Et donc là, on a quelque chose qui reste longtemps dans le XXe siècle.
Oui, Claire Blandin, Édouard Herriot, dont on parlait, finira à l'Académie française. D'autres hommes politiques finiront eux aussi à l'Académie française. Comme si, effectivement, être écrivain, professeur et homme politique, quand on avait cette culture-là, était plus ou moins la même chose d'une certaine façon et nécessité d'être couronné parmi les meilleurs des écrivains français, puisque l'Académie française, au départ, c'est son rôle, en l'occurrence, Claire Blandin.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment il y a aussi cette idée que la littérature est un instrument de compréhension psychologique et de ce fait devient une clé pour le gouvernement. C'est ce que De Gaulle fait quand il fait glisser en fait cela, j'allais dire presque de la littérature à la culture générale, puisque pour De Gaulle, la culture générale, c'est vraiment une école de commandement. C'est ce qui va donner une ampleur de vue, c'est ce qui va donner ce qu'il appelle la pénétration d'esprit, la sagesse pour la prise de décision. Et c'est de là que vient la place de cette culture générale dans, par exemple, dans l'ENA participer à mettre en place. Et le fait qu'ensuite De Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir après 58, va s'entourer de personnalités qui sont issues de ces grands corps de l'État et qui ont aussi cette même culture générale. Donc un recrutement élitiste en fait de ces grands commis de l'État, à la fois dans l'administration parisienne et dans les administrations territoriales sous De Gaulle, qui est assez frappante. Mais c'est effectivement cette culture générale qui est une culture livresque, qui imprègne les individus et qui influence en fait la conception française moderne de la culture générale par la suite.
Mais en quoi ça plaît ?
Après De Gaulle.
Oui, allez-y, continuez, Clément.
De Gaulle a aussi une relation évidemment particulière, lui, à la littérature. Hein, Judith Lioncan vient de l'évoquer. C'est-à-dire, c'est une personnalité qui va se distinguer lui-même par le verbe. Le verbe est le terrain de sa grandeur. Il instaure un nouvel usage du livre en politique. Hein. Il a un vrai rôle d'écrivain et ce livre en politique participe de son nouveau rapport au peuple, du rapport qu'il instaure avec la Ve République. Cela ne pouvait pas se faire avant, en fait, hein, pendant la IVe République. Mais c'est vrai que, de ce fait, et depuis De Gaulle, l'écriture et le livre, si ça ne conditionne pas l'accès au pouvoir, ça fait partie de l'entrée en politique des hommes politiques. Et ça va jusqu'à la rédaction des mémoires, hein, qui est un exercice extrêmement calé, extrêmement encadré,
avec sous le coude, avec
un grand nombre d'hommes politiques.
Oui, avec les mémoires de Gaulle, évidemment, s'écrivent avec sous le coude les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, un exemplaire usé dont nous parlera son petit-fils, quand on visitera demain la boisserie avec lui. Patrick Garcia, en quoi ça plaît ? Parce que tout compte fait, on pourrait se dire, voilà donc une élite politique qui fait des références à des textes qui parfois sont inconnus du plus grand nombre, la massification de la démocratie, l'idée qu'effectivement de plus en plus de gens après 1945 et en particulier les femmes vont voter, il y a donc un élargissement de la base électorale et on se dit mais tout compte fait, est-ce que cette culture-là n'est pas déconnectée de cette base électorale qui peut-être ne partage pas tout ou partie de ces références historiques, de ces références littéraires qui sont citées pourtant par ces grands hommes politiques.
C'est une question compliquée, je ne sais pas si on peut savoir en quoi ça plaît, en tout cas on peut voir en quoi ça fait effet, à savoir que ça va poser l'homme politique dans une autre dimension.
Une autre
ça lui permet d'échapper à la politique tout en faisant de la politique. Je veux dire, les mémoires de De Gaulle, elles sont aussi très intéressantes, en ce sens qu'elles construisent la dimension messianique prophétique. Hein, du personnage, puisqu'elles sont écrites dans l'après-coup, mais publiées comme étant l'annonce d'eux. Donc, ça participe de la création de la stature. De la même façon, pour François Mitterrand, hein, qui se pose en écrivain à Gisèle Freund, quand elle fait sa photographie officielle, il lui dit « N'oubliez pas que je ne suis pas simplement un homme politique, je suis un écrivain. Oui. » Et c'est comme écrivain qu'il me faut photographier. Et je crois qu'effectivement, il y a une question, il y a la construction de l'image d'une élite dans une société qui est encore une société de référence. Et de ce point de vue-là, il y a une tradition qui reste, puisque je peut-être le dernier avatar, c'est la publication du Mandel de Nicolas Sarkozy. Mais je ne sais plus si aujourd'hui, ça fait autant partie, ça suscite autant de légitimité que ça a pu en citer. Donc on est à la fois, on est à l'intersection de trois choses. Le goût, le goût, l'expression de la culture, la légitimité, et puis un troisième élément sur lequel quand même je voudrais insister. Je disais que c'était la présence du 19e siècle dans le 20e, mais c'est aussi un autre rapport au temps. C'est la possibilité, à un moment donné, de s'arrêter pour écrire. De Gaulle s'arrête 15 jours pour écrire son discours au Québec. Il est dans un bateau. François Mitterrand se met même en scène dans ses chroniques en disant « Bon, ben là, je m'arrête, je vais visiter Vézelay. Je me rappelle les Verts d'Aragon. Il y a une réunion du comité directeur du Parti Socialiste. Mais bon, quand même, c'est pas ça qui est important. » Donc, il prend son temps, prendre le temps. Et on va le retrouver même dans la vie présidentielle. Tous les conseillers de Mitterrand rappellent que quand il recevait un écrivain, tout d'un coup, son emploi du temps devenait strictement ingérable parce qu'au lieu d'y passer une heure, il pouvait y passer deux, trois heures dans cette rencontre avec l'écrivain. Donc,
sans compter ses voyages chez les bouquinistes.
Voilà, absolument. Mais donc, autre temps, autre rapport au temps. Effectivement, le temps de l'écriture, le temps de la lecture. C'est pas le temps de l'iPhone.
Oui, le 10 mai 80, on m'a raconté qu'effectivement, mais peut-être est-ce une légende, François Mitterrand, en attendant les résultats de l'élection, est allé voir un de ses amis bouquinistes en Bourgogne pour pouvoir récupérer 3 ou 4 livres qu'il lui avait commandés, donc tranquillement, pendant que les Français votaient. En l'occurrence, Judith Yoncan.
Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est vrai, maintenant, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est face à... Il y a deux choses qui marquent, je crois, le contemporain. Quelque chose qui se défait. Je crois que les aventures de Nicolas Sarkozy avec la princesse de Clèves, c'était en 2006, lorsqu'il a prononcé cette phrase à propos des concours d'attachés d'administration, il dit, où il se rend compte que, prétend, donc le concours d'attachés d'administration publique implique un commentaire sur la princesse de Clèves, et à ce moment-là, Sarkozy dit, je ne sais pas si cela vous est souvent demandé, à la guichetière, ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, ça a eu d'ailleurs un effet assez amusant qui est de rendre la princesse de Clèves à la gauche des enseignants de lettres. Elle est devenue une sorte de délinquante. Enfin, ouais. Voilà. En tout cas, l'amie des professeurs de lettres de gauche. Mais ce que fait Sarkozy à ce moment-là, c'est quand même, à mon avis, une sorte de carnavalisation de charivari de cette culture littéraire des élites politiques.
Et le geste... Chamboule tout.
Voilà. C'est-à-dire, c'est une sorte... Oui, c'est vraiment comme un carnaval. C'est-à-dire qu'on prend, on exagère et...
On inverse.
Et alors, on inverse, on met des masques grimaçants et la princesse de Clèves, qui d'ailleurs... de manière intéressante, n'est pas au cœur de cette culture littéraire des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on la voit apparaître là probablement pour d'autres raisons, peut-être même pour des raisons qui sont simplement proprement littéraires, c'est-à-dire phonétiques, de renvoi à un imaginaire classique lointain. Eh bien, là, il défait quelque chose. En même temps, chez quelqu'un comme le président Obama, aujourd'hui, on retrouve des références qui sont pas si lointaines de celles de Gaulle ou de Mitterrand, dans la mesure où, par exemple, Obama, avant de partir de la Maison-Blanche, a donné une très longue interview au responsable des pages littéraires du New York Times, dans laquelle non seulement il parle de ses lectures, mais il parle du rôle de la littérature pour lui. Et il dit deux choses, entre autres. D'une part, que la littérature, c'est ce qui lui permet de ralentir le temps. Donc, dans un emploi du temps absolument saturé, il lit pour ralentir le temps. Donc, on revient à ce qu'on disait sur De Gaulle. Et d'autre part, il explique que la littérature, c'est ce qui le connecte au monde extérieur, ce qui lui permet de connaître les gens. Et là, on a une vision empathique de la littérature qui est assez en écho avec un certain type de critique littéraire très en vogue, disons, à la fin des années 2000, au début des années 2000 plutôt, cette idée d'empathie, mais aussi ce rapport dont on parlait tout à l'heure à la un corps vivant qui est celui-là de la nation américaine, voire du monde.
Un transfert de sacralité de cette littérature sacrée chez nos hommes politiques jusque dans les années 70 ou 80, qui est maintenant sacrée pour un personnage comme Obama, peut-être pas pour Donald Trump.
Et là, c'est la littérature, c'est une littérature de langue anglaise, mais mondialisée, qui lui permet, dit-il, à la fois d'être en contact avec les simples gens du Midwest par l'intermédiaire des romans de Marilyn Robinson ou des gens comme ça, et en même temps d'être en contact avec les grands hommes, puisqu'il lit Mandela, Gandhi, etc.
Claire Blandin, sur ces questions d'actualisation, pourrait-on dire, de cette culture littéraire des présidents français?
Oui, il y a quand même des formes d'actualisation. Je pense à un article récent de Christian Lebar dans la revue Mots, les langages du politique. L'article s'appelle « Rôle présidentiel et dispositions littéraires ». Et Christian Lebar montre justement cette postérité, en fait, de la grandeur littéraire. Il explique que la grandeur littéraire, elle n'est pas inscrite dans la Constitution au titre des prérogatives présidentielles, mais elle est presque une ressource, elle est presque une contrainte pour qui veut succéder au général de Gaulle sous la Ve République. Et qu'en fait, le rôle présidentiel en France se charge quand même d'une dimension littéraire qui s'impose à tous les prétendants à ce rôle, d'où le fait, d'où l'importance en fait des livres politiques qui sont publiés. Mmh. Alors évidemment, aujourd'hui, la disposition à faire œuvre littéraire c'est plutôt ça qui est perçu par les acteurs du champ politique comme ce qui va anticiper la hauteur de vue du président. Mmh. Et en fait, il y a un effet en fait de banalisation de cette posture littéraire, en particulier à l'approche des échéances présidentielles. Et donc Christian Lebar, quand il travaille sur les livres aujourd'hui du monde politique, il explique que c'est cette posture littéraire qui devient la clé d'une forme de marketing politique pour qui veut démontrer en fait sa présidentialité. Il reste ce passage obligé de la posture littéraire.
Vous avez travaillé sur les discours des présidents, et en particulier en matière historique, Patrick Garcia. Mais une des difficultés peut-être, c'est que ces discours sont peut-être moins souvent écrits par les présidents eux-mêmes qu'ils l'étaient sous De Gaulle ou sous Mitterrand. On leur fournit des canevas qui sont tout à fait précis et qu'ils peuvent ou non modifier à leur aise, mais en l'occurrence, effectivement, est-ce qu'on reconnaît ces périodes de la rhétorique classique, par exemple, dans les discours des présidents les plus récents, que ce soit Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac auparavant, ou encore François Hollande?
Oui, non, pas vraiment. Au sens où, aujourd'hui, avoir la même écriture qu'on pouvait avoir dans les années 60, voire dans les années 80, serait contre-productif. On l'a bien vu, je vais donner un exemple, au moment où Jacques Chirac porte au Panthéon André Malraux. La question, c'est de ne pas faire un discours à la Malraux. Mmh. Bah, tout simplement parce qu'il n'est plus audible, parce que c'est une phrase qui est construite pour l'Assemblée, c'est une phrase qui est construite pour la radiodiffusion, c'est pas forcément une phrase qui est construite aujourd'hui pour la télévision. En même temps, il y a la nécessité de bien écrire. Je crois que d'une certaine manière, je reviendrai sur l'expression de Judith, Sarkozy a bien organisé une espèce de charivari dans la façon dont il a maltraité la langue française dans un souci de se rapprocher. Mais ça veut dire en même temps que ça peut rentrer dans l'horizon aujourd'hui que de déconstruire la phrase est une façon d'être plus proche du peuple, plus proche des électeurs. Donc je crois qu'on est dans un moment un peu compliqué. Alors pour revenir sur la fabrication des discours, effectivement, De Gaulle écrit ses discours, mais De Gaulle a le temps, je l'ai déjà dit. Mitterrand sollicite aussi des plumes.
Bien sûr.
Réécrit, et c'est un hypermnésique, donc il a toutes ses versions, et puis il recompose. C'est un rhétoricien, il recompose très librement, et quelquefois il reste une ou deux phrases, donc les auteurs sont satisfaits. Depuis, on est rentré plutôt, on est à l'époque plutôt dans la haute couture. Maintenant, on est plutôt rentré dans la production industrielle de discours, ce qui n'empêche pas...
Ils en prononcent beaucoup plus que de Gaulle.
Oui, on en prononce 5-6 par jour.
Oui.
Voilà. Et si on va du côté d'Hollande, on voit ce travail. Il y a un vrai travail sur ce qui est proposé. Mais c'est un travail sur ce qui est proposé. On n'est plus dans l'acte d'écriture qui est devenu impossible. matériellement.
Et puis, il y a peut-être aussi autre chose. On a évoqué, Claire Blandin a évoqué tout à l'heure la naissance de l'ENA et les processus de sélection. En l'occurrence, Judith Lioncamp de l'ENA ne sont pas les mêmes que les processus de sélection de l'École normale supérieure à la fin du 19e siècle. Et peut-être les références nécessaires pour pouvoir intégrer l'ENA ne sont-elles pas les semblables de celles des hommes politiques de la fin du 19e, avocats ou professeurs?
Non, mais l'épreuve de culture générale de l'ENA est quand même restée pendant longtemps très très marquée justement par
cette
culture classique. Pas tant la culture classique que la capacité à la mobiliser dans des situations où il peut sembler utile de la mobiliser. Ça signifie pas forcément d'ailleurs que le niveau d'imprégnation doive être très très élevé. Hein. C'est plutôt une intelligence de la mobilisation de la bonne référence dans la bonne situation. Donc c'est quand même beaucoup une analyse des situations qui est demandée. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute des discours de De Gaulle ou des prises de parole de Mitterrand, on est quand même frappé par la distance. C'est-à-dire que c'est une langue, c'est une manière d'être dans la langue qui nous semble extrêmement ancienne.
Un dernier mot, Claire Blandin.
Oui, effectivement, c'est une langue qui nous paraît ancienne, mais c'est aussi, chez Mitterrand, une manière d'aborder le monde qui nous paraît déjà décalée, alors que c'était pas si loin dans le temps. C'est-à-dire que François Mitterrand est quelqu'un qui a une compréhension du monde par l'histoire, par la géographie, par la littérature. Et Eric Orsenna explique, par exemple, que quand il réfléchit à la Russie, Mitterrand, il pense à guerre et paix, ou qu'il a des discussions infinies avec Michel Tournier sur l'Allemagne. Donc c'est une lecture du monde par la culture générale et par la littérature qui nous paraît déjà lointaine.
Merci beaucoup à vous, Claire Blandin. Je rappelle que vous êtes professeure à l'Université de Paris 13, spécialiste d'histoire, pas simplement littéraire, mais également de la presse. Judith Lioncamp était avec nous, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et Patrick Garcia, professeur des universités à Cergy Pontoise, qui a travaillé spécifiquement, Patrick Garcia, sur les discours des présidents de la République, de la Ve République, donc en particulier autour de l'histoire. Merci à tous les trois. Nous continuerons demain cette série d'émissions consacrées créé à la culture littéraire de nos présidents, en nous intéressant à des cas particuliers. Demain, le président De Gaulle en visitant la boisserie avec son petit-fils Yves De Gaulle. Après-demain, ça sera donc le tour de Pompidou et de sa culture poétique en particulier. Et pour finir, François Mitterrand, jeudi. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati et Anaïs Quien, qui devait nous accompagner, nous a sûrement écouté là où elle se trouve. Donc, elle était malade et donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Clément Daté est avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation.